problème n'est pas là.
Francis Gosselin.
Ça sonne comme une arnaque.
J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
Mario Dumont.
Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
La rencontre. Gosselin. Dumont.
Bonjour, Francis.
Salut, Mario.
Deux nouvelles, une mondiale et une locale, mais qui sont peut-être reliées. C'est que Ford, hier, disait perdre plus d'un milliard de dollars.
N'avait pas une bonne journée.
Non, et avec les véhicules électriques.
Ils ont créé une filiale, dans le fond, c'est pareil.
Elle perd de l'argent comme c'est pas permis. Yes. On peut dire que c'est une jeune industrie, c'est peut-être normal. Ouais. Mais au même moment, au Québec, l'usine associée à Ford à Bécancour, qui était en construction, on interrompt les travaux.
Exactement, puis je pense que ces deux nouvelles-là sont quand même...
Tu fais
bien de les lier, là. Donc, peut-être on peut les prendre dans l'ordre, mais tu sais, je rappelle toujours aux gens, là, parce que j'ai lu toutes sortes de drôles de trucs, là. Tu sais, on calcule la perte par véhicule, tu sais, mais c'est pas vraiment comme ça qu'il faut voir ça, là. Tu sais, à un moment donné, une entreprise comme Ford qui décide de se lancer massivement dans une technologie qu'ils connaissent pas beaucoup, avec des usines complètement nouvelles qu'ils doivent construire, c'est sûr qu'ils dépensent des milliards de dollars. C'est sûr que si tu divisais ça par le premier véhicule qui a sorti, ça serait 5 milliards pour le premier véhicule. Fait que, là, l'année dernière, ils en ont vendu 10 000. J'ai lu à gauche à droite que essentiellement ils perdaient 130 000 $ par véhicule, mais c'est pas vraiment comme ça qu'on fait de la comptabilité dans une entreprise.
Ouais, parce
ils ont
que l'idée,
investi
c'est que
des milliards.
S'ils vendent des F-150 électriques par dizaines de milliers, par centaines de milliers...
C'est ça, exact. Aujourd'hui, j'ai la conviction, là, puis j'ai quand même fouillé un petit peu l'affaire. Ils font de l'argent sur chaque véhicule. C'est juste que les coûts fixes d'installer cette patente-là sont tellement énormes que même si tu fais 10, 20, 30 000 $ pour chaque camion qui sort de l'usine, ça ne compense
pas
pour la totalité. Puis ils continuent à investir. Je veux dire, la capacité de production s'accroît. Évidemment, la trame de fond, Mario, c'est que bon, les taux d'intérêt sont élevés. C'était un peu inattendu. Là, tu sais, on va se le dire. Là, l'épisode courte, mais quand même intense d'hyperinflation, pourrait-on dire, qu'on a vécu, suivi d'une période de très rapide hausse des taux directeurs, fait en sorte que c'était dans le journal là, ces derniers jours. Tu sais, aujourd'hui, tu fais financer des voitures, là, sauf quelques marques. Là. Il y a beaucoup d'entreprises automobiles qui financent à du 8, du 9, du 10 %. Ça fait que tu payes ton auto deux fois, là, essentiellement, à la fin du terme. C'est pas très avantageux. Donc, les gens qui savent compter se disent, ben, je vais reporter l'achat d'un véhicule, je vais acheter un véhicule usagé ou je vais carrément acheter un véhicule moins cher. Puis, aujourd'hui, dans les véhicules électriques, il n'y a pas beaucoup de moins cher. Tu sais, c'est en train de converger un peu à la baisse, mais ça reste une guerre de moyen terme. Donc, bref, tout ça pour dire, ça, pour amener ça à nos bananes à nous, ben là, effectivement, c'est Atkins Realis, là, ancien SNC-Lavalin, qui s'est fait un peu, si j'ai bien compris, signaler que le contrat n'était pas renouvelé, fait que ciao, bye. Fait que c'était un petit peu bizarre. Ils sont en train de construire une usine pour Ford et des partenaires asiatiques.
C'était la plus petite des deux, là. La plus grosse, c'était
GM-POSCO. GM-POSCO, qui est la plus grosse, effectivement. Celle-ci, là, c'est à peu près un peu plus d'un milliard de dollars, 1,2 milliard.
200 emplois de mémoire.
Ouais, exact. Encore une fois, qui fabrique juste une partie de la batterie, là, donc c'est une composante essentielle.
Les cathodes,
Mario. Ça rentre dans la filière batterie, comme on l'appelle.
Je me suis fait expliquer qu'il ne faut pas rire de la cathode parce que c'est juste une partie de la batterie, mais en termes de valeur financière, c'est presque la moitié de la batterie.
T'as bien été renseigné. Donc, ça pour dire, c'est mis sur pause et là, donc évidemment, Atkins Realis, qui est comme le maître d'œuvre, n'a pas plus d'informations vraiment à dévoiler, sont un peu surpris. Et il y a toute une cascade de plus petits fournisseurs.
Parce que Ford était associé avec qui là-dedans? Des Sud-Coréens?
C'est des Sud-Coréens, là, j'oublie les noms. Là, c'est quelque part dans mes notes, là, mais c'est des plus petites entreprises.
EcoPro, je pense.
EcoPro, exactement. Non, EcoPro, c'est le nom du projet.
Okay.
Et c'est SK, l'entreprise coréenne, là, qui elle-même a annoncé en Corée, là, tu sais, je suis en train de vous faire l'histoire du monde, là, mais qui elle-même a annoncé en Corée qu'ils allaient un peu... en bon français, pacer, là, ralentir ou temporiser leurs investissements parce qu'ils anticipent que la demande va être présente. Ce n'est pas une question de faire faillite ou d'arrêter, mais que la demande elle va plutôt reprendre quand le taux directeur, quand les taux d'intérêt vont se remettre à baisser, quand la croissance... Bon, on pourrait dire aux États-Unis, la croissance est toujours là, mais dans la plupart des autres pays occidentaux, la croissance, elle est plutôt plate actuellement. Donc, bref, tout ça pour dire. Et puis, juste petite parenthèse avant de finir, Mario, j'ai consulté une étude, là, enfin, un sondage qui a été mené aux États-Unis. Il y a quand même aujourd'hui à peu près la moitié de la population américaine qui dit que son prochain véhicule sera peut-être électrique. Donc, il y a quand même, je veux dire, j'étais surpris de ça. Ça me semble élevé. Là, tu sais, on pense que les Américains, ils aiment leurs gros chars à gaz. Il y a un Américain sur deux qui considère comme prochain achat un véhicule électrique. électrique.
Et... ça ne veut pas dire qu'ils vont tous le faire, non, mais ça veut dire qu'on est rendu ailleurs.
Ils sont
quand
ouverts
même
à ça. Puis pour moi, c'est quand même un changement de mentalité très important par rapport à il y a quelques années. Évidemment, là, tous les manufacturiers en font. Il y a des belles voitures électriques, il y a des grosses voitures, des petites voitures électriques. T'sais, il y a beaucoup plus de choix. Donc, c'est normal. L'autre élément dans cette même étude-là, moi, qui m'a frappé, Mario, c'est qu'on leur demandait si le prix pour un véhicule équivalent était 20 % de moindre et que le véhicule venait de Chine, l'achèteriez-vous quand même? Et là, dans ces 50 %-là, donc dans ceux qui disent oui, je vais peut-être acheter, 76 % disent oui. Et donc ça, ça doit faire frimer.
Donc, même aux États-Unis.
Ils achèteraient une auto chinoise.
L'Américain
bref,
moyen. Là,
ouais, c'est 3 sur 4 là, de ceux qui passeraient à l'action vers l'électrique.
Pour 20 % moins cher. C'est quand même une différence.
Oui, oui, mais je dis juste, tu sais, on pense la Chine, là, c'est les méchants, mais essentiellement, on est sensible aux facteurs du prix. Et donc là, on le sait, là, les véhicules chinois, BYD et d'autres là, vont peut-être finir par débarquer massivement en Amérique du Nord. Et c'est pas 20 % de moins, Mario, là, c'est comme 40-50 % de moins. Donc éventuellement, ça pourrait être un raz-de-marée. Puis ça, ça doit faire peur là, à des Ford, justement, et des Tesla et d'autres acteurs qui sont déjà bien installés ici.
Tu me parles de l'entente entre le célèbre journal le Financial Times et OpenAI.
Ouais, ben tu sais certainement, Mario, il y a plusieurs médias ben, américains surtout, mais un peu de partout sur la planète là, qui poursuivent OpenAI, là, donc la firme derrière ChatGPT, qui essentiellement essaie de faire valoir que ChatGPT, pour se développer, a comme pompé tout leur contenu. C'est-à-dire qu'ils ont pris tous les articles jamais écrits sur les sites web de tous ces médias-là. Et c'est comme ça qu'ils sont capables aujourd'hui de si bien reproduire, hein, créer un peu de la nouveauté. Et donc, ces poursuites-là, pourrait-on dire, sont en train tranquillement de se régler à la pièce. Je ne sais pas s'il y a une stratégie derrière ça. J'imagine que oui. Mais ChatGPT fait des ententes ponctuelles avec chacun des médias. Donc là, pour l'instant, il reste pas mal juste le New York Times là, qui n'a pas réglé, mais Le Monde, El País, le tabloïd allemand Bild et là, aujourd'hui Financial Times qui annonce qu'ils ont convenu d'une entente pour être rémunéré carrément par OpenAI pour avoir le droit de pomper leur contenu. Puis c'est un petit peu une drôle d'affaire, Mario. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu sais, c'est comme...
Parce que d'abord, ouais, pour les gens qui nous écoutent, mettons que toi, tu demandes à ChatGPT, fais-moi un résumé... Mettons notre discussion d'avant. Ouais. Fais-moi un résumé de la situation de l'automobile électrique, du ralentissement d'automobile électrique dans la dernière année.
Exact.
ChatGPT, lui, il sait rien. Là. Il a juste la capacité d'aller fouiller.
Ben, puis d'aller fouiller dans toutes les langues, dans tout le monde, les 42 000. Puis probablement qu'il existe à quelque part un verbatim de cet échange, Mario, où peut-être qu'ils peuvent le générer. Mais en tout cas, tout ce qui a été dit depuis.
Puis l'intelligence artificielle, en quelques secondes, résume tout ça.
Ils te font du nouveau, tu sais, ultimement. Mais est-ce que c'est vraiment du nouveau? Donc là, la question devant les juges, c'est est-ce que c'est du plagiat? Tu sais, essentiellement, est-ce que tu as pris tous ces textes-là pour le copier-coller dans une nouvelle façon, ou est-ce que c'est vraiment de la nouveauté, et puis est-ce que c'est légitime? Aux États-Unis, il y a cette doctrine là, dans le droit de la propriété intellectuelle qu'on appelle l'usage juste, hein, le fair use. Si, par exemple, je veux te chanter Bonne fête, j'ai le droit, même
parce
si
ça,
c'est une chanson qui est brotée.
Dessus,
non, il y a encore des droits, d'ailleurs, mais dans un cas de fair use, dans un anniversaire particulier, etc., j'ai le droit. Si je veux mettre un échantillon de musique de quelques secondes pour illustrer un propos dans un cours universitaire, c'est du fair use. Mais là, évidemment, si je pompe tous les articles du Journal de Montréal jamais écrits pour restituer dans le style du Journal de Montréal un nouvel article, est-ce que c'est du fair use? C'est ça la question.
Mais je te soumets, moi, il y a une couple de biographies qui ont été faites sur moi quand j'étais en politique, mais la première qui a été faite, j'ai monté vite d'un sondage, puis quelqu'un a voulu faire de l'argent avec ça. Il a dit, moi, je vais te sortir. Elle a sorti une bio, mais française.
Non autorisée.
Non autorisée, mais genre en 6 semaines. Là. Mais sans interviewer personne, sans parler à personne. Et essentiellement, ce n'était qu'un collage d'articles du journal,
ramassé,
des choses, mais même des choses qui avaient été dites dans le 7 jours, dans la semaine, dans des magazines. Non, j'ai pas trop fait l'Allopolis. Non, mais toutes des affaires de même. Puis... donc, lui, il s'est fait un livre avec ça, puis il en a vendu, là.
C'est
j'aurais dit un livre bas de gamme,
c'est
là, mais...
c'est intéressant, comme
mais est-ce que lui, avait repris le travail de plein d'autres journalistes? Lui, il n'a pas interviewé personne,
mais...
il n'a pas...
mais c'est tout ça, là, tu sais, puis comme je te dis, je ne suis pas un expert de la technique de ça. Moi, je suis un peu tiraillé dans tous ces débats-là, parce qu'effectivement, même moi, Mario, quand je te parle ici,
j'ai lu ça quelque part.
J'ai fait des études à l'université, j'ai lu des livres, je veux dire, tous les mots que je te dis, je les ai bien pris à quelque part, hein. Je les articule d'une façon nouvelle aujourd'hui au micro.
Non, puis les gens qui parlent à la TV, à la radio, mondiaux n'ont pas étudié. Tu sais, moi, je parle de donner des statistiques. Je n'ai pas étudié personnellement chacune.
Non. Quelle est la différence entre ce qui se passe là et ce qui se passe dans une espèce de boîte noire qu'on appelle ChatGPT? T'sais, à quelque part, bon, là, il y a du code, là, il n'y en a pas, mais tu sais, à quelque part, peut-être que tout ça va converger. Bref, c'est un débat quasiment philosophique, mais donc, c'est devant les. Et donc, pour revenir à Financial Times, ils ont accepté une petite somme d'argent non dévoilée. Peut-être des chiffres intéressants, Mario. Le Financial Times a quand même fait 500 millions ou presque de revenus l'année dernière. C'est quand même un média. Moi, ouais. Ça m'a surpris, ces chiffres-là. Mais sur 500 millions, ils font 13 millions de bénéfices en bas. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est à couteau tiré. Fait que chaque million là, compte. Puis on sait qu'il y a OpenAI, évidemment, avec Microsoft derrière, avec toutes les licences qu'ils vendent, ils sont très bien financés. Fait qu'ils sont pas à 1 million ou 3 millions près. Fait que c'est une drôle de tension. Puis pour moi, Mario, pour finir, tu sais, là, le Financial Times accepte ça. Mais tu sais, c'est comme si je te disais, Mario, je vais t'enregistrer toutes les émissions que tu fais. Puis à un moment donné, ben, je vais te remplacer parce que, tu sais, je vais avoir comme tout capturé ton style, tes mots, tes pensées, tes opinions. Puis, fait que, tu sais, c'est comme on dirait que c'est comme tu mets le doigt dans l'engrenage. Le Financial Times vont tout donner à OpenAI jusqu'au jour où finalement, on n'aura plus vraiment besoin du Financial Times parce qu'ils vont juste refaire. Tu sais, fait en tout cas, c'est un drôle de manière de quasiment vendre son âme. Mais écoute, ultimement, il faut survivre comme on peut.
Et ton dernier sujet, c'est le rappel de notre économiste préféré. Ça, je pense que c'est
ben,
toi.
Ben, écoute, Mario, ben oui, c'est moi. Je merci de lire mes titres de segment. Ben, c'est la journée, dernière journée pour remettre
on
son rapport d'impôt.
On
fait
le
que
sait.
Je voulais juste, c'est quand même la chronique économique, mais un peu financière aussi.
Mais, ce matin, je parlais à une comptable en onde, là. Il faut le faire. Là.
Oui, faut le faire. Puis pour plein de raisons, évidemment, si vous...
Même si à cette heure-ci, c'est pas fait, ça vaut la peine d'essayer de le faire en ligne.
De le bricoler, oui.
Même si vous manque un document, vous êtes mieux de le faire aujourd'hui.
Tout
puis de
fait.
Faire un amendement la semaine prochaine quand vous aurez le document qui vous manque ou que vous avez perdu.
Absolument, Mario. Ça peut être pas grave, mais ultimement, ça peut vous faire perdre certains bénéfices, là, comme l'allocation canadienne pour enfants dépend là, du dépôt à la date donnée. Sinon, il peut y avoir d'importants retards. Quoi. Même on peut perdre la chose.
Si tu veux pas avoir les ministères du revenu aux fesses, jamais
dans ta vie. Si vous avez le droit d'en avoir, ben faites-le vite pour récupérer l'argent, placez-le, puis tu sais, générer du rendement. Si vous en devez, Mario, là, il y a deux choses qui se passent. Il y a demain, le 1er mai, il y a des pénalités.
Immédiates,
c'est un pourcentage. Puis après ça, il y a des intérêts. Puis là, c'est deux choses là, qui
s'additionnent. Il y a de l'intérêt sur le montant et de l'intérêt sur la pénalité.
Moi, cet après-midi, carrément, Mario, je suis allé dans mon compte, puis j'ai envoyé des piastres là, à Revenu Québec puis à l'ARC pour être sûr.
Pour payer pour nos bons services publics.
Ben,
merci, Francis.
Pour les usines de batterie à Bécancour.
Ah, oui.
Et donc, je voulais finir, il nous reste une minute. Des petites choses qu'on oublie souvent, Mario, les frais médicaux. Il y a des parties selon votre revenu qui peuvent être déduits. Évidemment, si vous avez cotisé à des REER, mais là, la nouveauté depuis quelques années, c'est le CELIAP, là, surtout pour les plus jeunes. Mais n'oubliez pas, si vous avez mis un CELIAP, j'en parlais avec une de nos recherchistes tantôt. Là. Bon, là, c'est trop tard, mais le CELIAP, de la manière que ça fonctionne, si tu mets une piastres dans le CELIAP, t'ouvre ton droit pour l'année de 8 000 $. Fait que faites-le, mettez 1 $, comme ça, si dans 5 ans vous voulez utiliser ce droit-là de la première année, il sera ouvert. Ceux qui ont...
Ah oui, faut ouvrir son année.
C'est comme les... c'est pas comme les REER. Le CELIAP, c'est 8 000 $ par année pendant 5 ans, mais si t'en mets pas pendant une année, tu perds ce 8 000 $-là, puis il est comme repoussé à dans 5 ans. Fait que ouvrez vos droits CELIAP. Sinon, il y a plein d'autres affaires là, que même j'ai oublié, mais savais-tu qu'il y avait 11% de la population canadienne qui avait encore des dettes d'études? Enfin, il y a les étudiants là-dedans, mais il y a des gens plus tard dans la vie. C'est évidemment déductible d'impôts, hein? Fait que n'oubliez pas de mettre ça dans votre rapport d'impôt. Puis là, tous les dons, frais de bureau à domicile, en télétravail, etc., il y a plein de nouveautés. Fait que, bon, là, ceux qui le font à 5h22...
Ils prennent des notes présentement.
Faites-le vite, là. Puis comme tu dis, faites un amendement, mais si pour l'année prochaine, là, commencez à penser à toutes ces petites dépenses, ça peut vous faire économiser de l'impôt puis avoir un petit peu plus de dollars dans vos poches à la fin.
Puisque tu parles d'impôts, là, il y a une question importante. Je la lis, là, qui vient de nos auditeurs.
Oui, sans doute.
Cet argent-là qu'on envoie au gouvernement, est-ce que c'est bien dépensé?
Toujours bien dépensé, Mario.
Ah oui? Tu peux nous rassurer, ça
sert à payer le salaire des députés, à faire des routes et du transport en commun.
Tu te portes garage et tout ça.
Appelez-moi si vous avez des questions.
Mais on rit, mais tu sais, on parlait de dernière minute, mais je recevais une comptable un matin pour parler de ça, 30 avril, puis elle me disait que il est arrivé dans sa carrière plusieurs fois d'avoir des gens qui viennent la voir, là, avec une chemise pêle-mêle. Non, puis elle dit, mettons, ça fait 4 ans que j'ai pas... Ça fait 4 ans que j'ai pas fait de rapport d'impôt, là. Puis là, la personne, ben, démêle-moi ça, mais, tu sais, la somme des pénalités, intérêts sur 4 ans.
J'ai eu, petite parenthèse, j'ai eu un associé, moi, qui était comme ça, en affaires, puis bon, lui, moi, je lui mettais la pression. C'était une fois par trimestre, au moins, mais il arrivait avec une boîte de souliers, puis un paquet de papier là-dedans.
Il n'y avait rien de clair.
Ça nous coûtait cher de comptabilité à cause
J'en doute pas. Merci, Francis.